Tu écoutes CFLC Balado,
la radio de ton magazine qui fout la chienne,
avec Pierre Duquet et Lucas Jalbert. D'après le magazine et la websérie de Lucas Jalbert et Samuel Roy, disponible sur plusieurs plateformes d'écoute. Une présentation de Cabron Productions.
Bonsoir Pierre Duquet.
Bonsoir Lucas Jalbert.
Bienvenue à CFLC Balado, la radio de ton magazine qui fout la chienne.
Eh oui, on va vous la foutre ce soir, comptez sur moi.
Alors je le rappelle, on a le magazine Ça fout la chienne, donc le magazine papier qui présente des bandes dessinées, des chroniques cinéma, littéraire, etc. On a la web-série qui transpose certaines histoires en épisode finalement de mettant en scène la jeunesse d'ici. Et on a maintenant le podcast, le balado CFLC.
Eh oui, et le premier a été lancé, il est en cours de diffusion depuis le premier vendredi de juin.
Oui, donc le balado va être diffusé les premiers vendredis de chaque mois durant la période estivale, parce qu'à partir d'octobre, la websérie va reprendre sa place du premier vendredi. Donc à ce moment-là, on va peut-être se retrouver au milieu du mois ou à la fin, mais de toute façon,
on en reparlera.
Exactement.
Et moi, de mon côté, ben, je vais vous plonger dans l'histoire du trésor nazi qui a été tant recherché et les lingots d'or qu'on recherchait surtout, mais on a trouvé beaucoup d'autres choses qui valaient des milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui.
Oui.
Et vous allez comprendre pourquoi par la suite.
C'est très mystérieux tout
oui,
ça.
Tout ça.
Moi, je vais vous parler de l'actualité en lien avec le milieu de l'horreur et évidemment une chronique cinéma, le cinémaniaque, donc qui va vous faire redécouvrir ou découvrir le cinéma de genre, et toujours en lien avec ce que Pierre Duquet nous parle côté mythe, légende, mystère du monde. Alors je me lance immédiatement avec l'actualité de l'horreur.
L'actualité qui fout la chienne.
Pour commencer très rapidement, à la fin mai est parue une première bande-annonce hyper flippante du deuxième chapitre du film It, Ça, donc tiré du roman éponyme de Stephen King. Donc avec pour la suite Jessica Chastain et James McAvoy, le clown diabolique donc Pennywise va continuer à nous foutre la chienne dans Ça 2 qui a droit à sa toute première bande-annonce et c'est très prometteur, tout premier trailer. Il va tout simplement avec une scène du film. On nous dévoile pas le film au complet comme on est tanné de voir là, présentement au cinéma. On nous dévoile des bandes annonces de 3 minutes 30.
Mais ça fout la chaîne quand même, cette...
C'est fascinant avec une vieille dame.
Ouais.
Elle retourne. On rappelle que ça se passe 27 ans après les faits.
Donc, ils étaient tous des gamins, des adolescents.
Effectivement. Et ils reviennent 27 ans plus tard parce que le clown réapparaît à chaque 27 ans. Ils vont devoir faire face à nouveau à Pennywise. Et là, c'est ça, on voit cette séquence là, hyper flippante.
Mais Lucas, je dois te dire quelque chose.
En oui.
J'espère que dans la suite, on va pas passer 14 heures dans le fond de la cave là.
En fond des égouts là.
Ça avait été long là, la bagarre, là, ça finissait plus.
Ouais, effectivement. Donc on va voir qu'est-ce qui va en advenir. Mais pour l'instant, la bande-annonce nous en dévoile pas tant, mais nous place immédiatement dans l'atmosphère. Et je vous le rappelle que Xavier Dolan va y faire une courte apparition en tant que personnage qui va probablement passer au cash avec le clown et ses ballons rouges. effectivement aussi, là on est en plein mois de juillet, la saison 3 de la fameuse série Netflix Stranger Things a commencé donc hier, le 4 juillet, pour la fête des Américains. Donc de retour pour une troisième saison avec les mêmes acteurs, les mêmes jeunes gamins qui sont de retour, toujours dans l'ambiance des années 80. On le rappelle que le vintage et le rétro de ces années-là est de retour. Et donc les personnages ont vieilli, sont devenus des adolescents, ils vont devoir faire face encore à de mystérieuses bestioles, mystérieux monstres de l'Upside Down, donc de l'autre côté, qui vont venir sûrement les hanter. Les hanter, absolument. Et enfin, ben, je vous fais entendre une petite entrevue que j'avais réalisée pour justement ma chronique entrevue dans le magazine numéro 4 qui va paraître pour les abonnés là, qui sont abonnés à notre magazine Jeunesse qui paraît en juillet. Une entrevue avec les auteurs Jacques Côté et Denis Côté. Jacques Côté a publié depuis une vingtaine d'années aux éditions À lire et Denis Côté, lui, du côté de La Courte Échelle pour un public plus jeunesse. Moi, j'ai grandi avec ces deux auteurs-là, avec Denis Côté au primaire et Jacques Côté au niveau secondaire. Donc, l'un fait dans l'horreur épouvante jeunesse, l'autre fait plus dans le roman policier polar qui se passe toujours dans la région de Québec et Lévis. C'est ce qui m'avait accroché à l'époque. Alors, je leur avais posé une question dans le cadre de cette entrevue fleuve que vous pourrez lire, les abonnés qui ont le magazine Jeunesse. Vous aurez une entrevue bien complète de 4 pages, mais ici, on vous fait entendre juste un extrait où je leur demande, bon, à quel moment est arrivée l'horreur dans leur écriture et, bon, qu'est-ce que leur a apporté l'épouvante, donc, dans leur vie.
On écoute ça.
Moi, j'ai grandi avec Denis Côté au primaire avec La Nuit du Vampire, les romans de Maxime, évidemment. Secondaire, c'est Jacques Côté avec Le Rouge Idéal, Nébulosité croissante en fin de journée. Quand est arrivé le suspense, le thriller, l'épouvante, l'horreur dans votre écriture ou dans votre vie tout simplement aussi?
Ben, jeune, j'aimais les films d'horreur. Toutes les productions Hammer Film, là, Dracula, Frankenstein, Le Loup-Garou. Pour moi, ça nourrit. J'aimais beaucoup les films d'horreur. J'allais voir des festivals de films d'horreur de minuit à 6 heures là, au Capitole, au cinéma de Paris, je m'en rappelle plus, je pense au Capitole. Et sans penser faire des romans d'horreur, je me suis rendu compte un peu malgré moi, c'était comme dans ma nature quand j'ai fait mon premier roman. Sans trop le savoir, il y avait des éléments qui pouvaient être attachés à l'horreur. Des parties. Ça vient aussi du film noir. J'ai beaucoup aimé le film noir. Avant le roman noir, moi j'écoutais des films de roman noir pour me rendre compte que c'était des films noirs pour me rendre compte que c'était des adaptations de romans noirs. Et puis ça a été pour moi une très belle école aussi. Donc t'apprends beaucoup. Moi j'ai appris avec la télévision. Pour moi un roman policier, ça prend un certain suspense. Les films d'Hitchcock m'ont beaucoup marqué. Donc.
Et pour Denis?
J'ai toujours aimé tout ce qui est irréel dans la fiction. Tout ce qui est en dehors de la réalité. À commencer par la science-fiction, ça c'est toujours ce que j'aime le plus, mais il y a aussi le fantastique, le merveilleux au sens large, l'horreur, j'ai toujours aimé ça. Alors, en tant que consommateur, toujours entre guillemets, déjà petit, tu peux ne pas savoir lire puis regarder la télé, bien sûr. Alors, il y avait des émissions, même au Québec, il y avait des émissions de science-fiction faites au Québec. Exemple, Opération Mystère, Cosmos 2001, fait au Québec. T'sais, alors, moi, déjà, je voyais ça. J'ai été nourri par la télé beaucoup, par le cinéma de la salle paroissiale ou du sol de l'église, puis je n'allais voir que des films de science-fiction, d'horreur et tout ça, là. Même l'horreur drôle comme Abbott et Costello contre Frankenstein. Ça, on peut le voir sur YouTube, c'est assez débile. Et quand aussi tôt que j'ai commencé à dessiner puis à écrire des textes de fiction, ben, c'était ça mes genres de prédilection, ça a toujours été ça. Si tu regardes l'ensemble de mes publications, c'est ça, il n'y a pas grand-chose qui sort de l'irréel.
Ouais.
Intéressant, n'est-ce pas? La suite, pour ceux qui sont abonnés au magazine, vous pourrez lire l'entrevue complète.
Et là, est-ce à mon tour?
Oui, bien sûr, je te passe le flambeau.
Oui, OK. Alors, j'ai préparé un petit préambule.
Oui.
Que l'on va écouter, qui est tout court, mais qui nous permet de constater qu'il y a quand même eu des survivants à cette époque des nazis de la Deuxième Guerre mondiale pour nous confirmer qu'il y a bien eu des caisses qui ont été jetées dans le fameux lac Töplitz dans les Alpes autrichiennes. On écoute ça.
Un prisonnier juif raconte. Vers la fin de la guerre, des camions étroitement surveillés se dirigeaient vers le sud, vers les Alpes. Lors d'un voyage, alors que nous traversions de nuit une localité, je remarquai un poteau indicateur sur lequel on pouvait lire « Lac de Töplitz ». Quand les camions eurent longé le lac, on nous ordonna de décharger les caisses sur des bateaux. Lorsque les bateaux revinrent, ils ne ramenèrent que des soldats. Les prisonniers avaient disparu. Ils disparurent aussi lors des voyages suivants. J'eus la vie sauve parce qu'un camarade de camp m'aida à me faire passer dans un autre groupe de prisonniers que l'on destinait aux travaux souterrains secrets.
Mais c'est hyper intéressant. J'avais jamais entendu parler du lactoplite.
Et tu comprends que celui qui a raconté ça a eu la vie sauve, comme il l'a raconté, parce qu'un ami l'avait fait changer de groupe. Sinon, les prisonniers étaient des Juifs qui allaient déposer les caisses dans le lac et ne revenaient pas. Et maintenant, on va écouter le montage pour vous dire, qui vous explique comment ce lac-là a été vu comme très dangereux parce que beaucoup de morts y ont eu lieu, des chercheurs du fameux trésor nazi.
Très étrange.
Dossier. Histoire étonnante et énigme de la Deuxième Guerre mondiale. Octobre 1963, Lactoplitz, situé dans une petite ville au cœur des Alpes autrichiennes. Près de 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le corps d'Alfred Eckner, âgé de 19 ans, est découvert par 70 mètres de fond, pris dans un enchevêtrement de branchages, de troncs d'arbres putréfiés, de rochers, de fusées, de caisses d'armes et de bombes de Stuka. Eckner est revêtu d'une combinaison de plongée sous-marine avec, dans le dos, deux bouteilles autonomes. On constate que le tuyau d'alimentation de son masque a été sectionné par un poignard. Ce jeune homme est au nombre des 23 victimes connues d'assassins mystérieux, gardiens fantomatiques des secrets du Lactoplitz, qui sont toutes mortes dans des conditions semblablement inexplicables. Le Lactoplitz est devenu célèbre pour les insaisissables trésors nazis qu'il renfermerait dans ses eaux noires. C'est pour cette raison que les cadavres commencent à s'y accumuler dès 1946. Le 18 novembre 1945, les autorités autrichiennes et les services secrets américains sont alertés par des paysans de la région située autour du lac Toplitz. Ceux-ci ont remarqué d'étranges allées et venues nocturnes autour du lac. Un paysan affirme même avoir aperçu des plongeurs sous-marins. Mais lorsque le 27 novembre, les autorités américaines arrivent sur place, ils ne trouvent plus personne. Les suspects ont disparu, sans laisser de traces. Le 17 février 1946, première découverte macabre. Ce jour-là, on retire du lac deux corps, celui de l'ingénieur Meyer et de Pichier. Ce dernier est le célèbre pilote qui était chargé de convoyer par avion une partie du trésor nazi et les caisses contenant les archives secrètes du Troisième Reich. On découvrit par la suite son avion au fond du lac. En 1949, la police autrichienne apprend que 6 anciens SS membres du commando de sous-mariniers ont ramené du fond du lac 4 caisses et ont disparu. En 1952, on retire à nouveau du lac deux autres cadavres. Il s'agit de deux anciens nazis. Les deux hommes ont été tués d'une balle dans la nuque. En 1953, un journaliste américain collaborateur du Reader Digest est arrêté en pleine nuit sur les bords du lac Toplitz. On trouve sur lui des plans détaillés du lac et de ses différentes cachettes. L'enquête va démontrer que ce journaliste était en rapport avec une organisation nazie clandestine de Bavière. Que cachent vraiment les eaux glaciales du lac Toplitz? Pourquoi tant de meurtres jusqu'en 1963? Des bribes de réponses commencèrent à poindre en 1959.
Et voilà.
On est plongé dans le lac.
Ouais. Alors, les réponses, je dis la fin du montage, les réponses commencent à arriver en 1959, donc plusieurs années après la guerre qui s'est terminée en 1945. Mais avant d'arriver à l'année 59, Lucas, il faut savoir qu'en mai 1945, quelques mois avant le mystérieux va-et-vient au lac Toplitz, le lac Trône, c'en est un autre, toujours situé dans les Alpes autrichiennes, est le théâtre d'un événement insolite. Au milieu de l'après-midi, du 15 mai 45, des enfants qui jouent sur le bord du lac alertent les occupants américains, parce que les Américains occupent le territoire maintenant. C'est comme si le lac devenait encore plus bleu, il était tout gonflé, disent les enfants, de billets de banque qui remontaient à la surface. Ils ont raconté ça aux journalistes et les soldats américains et les habitants du village découvrent des centaines de livres sterling, c'est la monnaie anglaise, des centaines, rejetées par les eaux sur les rives et des milliers d'autres vont surgir de l'embouchure de la rivière Trône. Et on retrouvera des conteneurs vides sous les eaux, mais aussi un chargement total évalué à 40 millions de livres sterling dans un camion de l'armée allemande abandonné près du lac. Alors aujourd'hui, on parlerait de milliards. Là.
Ah, ça n'a pas de bon sens.
C'est ça. Revenons maintenant au fameux lac Toplitz. En 1956, cette année-là, une banque sud-américaine propose au gouvernement autrichien de transformer et d'ouvrir au tourisme certaines régions des Alpes varvaroises. Et cette banque est cependant plus particulièrement intéressée, comme par hasard, par la région de Toplitz. Et la banque souhaitait implanter, comme par hasard, quelques hôtels autour du lac. Et les travaux allaient commencer, des sondes étaient déjà en place autour du lac, et un journaliste dénonça cette manœuvre en affirmant qu'on cherchait plutôt à fouiller le lac. Le gouvernement a fini par interdire les travaux. Mais nous voici enfin maintenant, en 1959, trois énormes camions s'arrêtent tout près du lac Toplitz, et une dizaine d'hommes en descendent et déchargent une quantité incroyable de matériel. Il s'agit en fait de journalistes du grand magazine Stern, qui affirment être là pour enquêter sur le trésor nazi immergé. Pour faire court, disons que plusieurs caisses ont été retirées du lac, qui ne contenaient pas d'or, mais encore là, des milliers de fausses livres sterling. Et c'est sans compter que les journalistes du Stern reçoivent des lettres anonymes les menaçant d'attentats. Il y a même des groupes financiers allemands qui interviennent auprès de Stern pour qu'il cesse son enquête. Il faut comprendre que les groupes financiers allemands, parce que c'est pas tous les Allemands, puis les gros bonnets qui ont été liquidés ou pendus, alors se retrouvaient bien souvent à la tête de grandes firmes après la guerre. Et 15 jours avant que la direction du Stern, sous pression, mette fin à la mission, une étrange caisse avait été retirée des eaux. La caisse portant le numéro B9.
Oh là là, hey, c'est bingo!
Oui! Un peu plus lourde que les autres, cette caisse pèse plus de 100 kilos. Et on a pris un soin méticuleux à la protéger de l'eau en l'enveloppant dans un emballage étanche. Mais que contient cette mystérieuse caisse, vas-tu me demander, Lucas?
Ben, je vais te le demander après cette pause.
Tu veux t'abonner au magazine qui fout la chienne? C'est facile. T'as juste à nous écrire sur notre page Facebook ou commander directement sur la boutique en ligne du site Internet de notre éditeur au cabroproduction.ca.
Tu croyais que l'expérience Ça fout la chienne n'était qu'un magazine? Détrompe-toi. C'est aussi une web-série qui vous raconte des histoires et sérieusement...
Ça fout la chienne.
Cabro Productions présente... Mettant en vedette la jeunesse d'ici... La web-série tirée du magazine Ça fout la chienne. Disponible sur Facebook et YouTube. Attrape un magazine avant qu'il ne t'attrape. Abonne-toi.
Alors Pierre, je te pose la question. Mais que contenait cette caisse?
Voilà. Alors la B29 contient une série de sachets, non pas de cocaïne,
mais de sucre.
Soigneusement scellés. Okay. Ils n'ont absolument pas souffert de leurs 14 années sous l'eau.
Hey, quand même.
Et on y découvre les directives destinées aux agents des services secrets allemands en Hollande, en Norvège, en Angleterre. Les listes des objectifs ennemis à faire sauter, des centaines de faux papiers d'identité et des documents secrets concernant la fabrication des fameux faux billets de banque. Et ce sont des documents extrêmement importants qui contiennent des numéros de comptes secrets.
Hey.
En Suisse, probablement.
Ben oui, probablement, oui, effectivement.
Or, en connaissant ces numéros, dit un expert, on pouvait savoir quels étaient les chefs du Troisième Reich encore vivants. Il y en avait encore beaucoup, soit dit en passant. Et à cette époque, plusieurs nazis occupaient des postes importants, tant dans les administrations d'Allemagne de l'Ouest et de l'Est, parce qu'on sait que la...
Là, on est 14 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
C'est ça. Et on sait que l'Allemagne est séparée en deux, là, les Russes d'un bord, puis bon. Et ainsi que dans l'administration autrichienne, donc il y avait encore des anciens nazis. Et ce sont vraisemblablement eux qui se sont opposés à la poursuite des recherches dans le lac Toplitz, où il restait encore 40 caisses à l'époque. Et maintenant, je vais juste résumer et conclure là-dessus en disant que les fameuses livres sterling, là, ça a continué encore au-delà des années 50, jusque dans les années 60. On s'est même mis à fabriquer des faux billets américains.
Ah.
Mais les Allemands avaient tellement vraiment fait un excellent travail. Il ne faut pas dire que c'est les Allemands, parce qu'ils avaient pris une centaine de Juifs qui avaient des connaissances en graphisme, okay, etc., dans les camps de concentration. Ils les avaient amenés dans une mine. Et là, ils travaillaient comme des damnés pour faire des billets à la perfection. Il était à ce point parfait qu'il s'en est écoulé des milliers dans tous les pays pendant que les Allemands étaient encore au pouvoir. Petit à petit, ça a réapparu en les années 60, mais avec des billets américains cette fois-là. Donc, ce qui veut dire que les instruments, les faussaires, tout ça, ça s'était comme renouvelé, là.
Ben oui.
Et il y en a encore qui tentaient de faire de l'argent avec ça. Mais Hitler n'y croyait pas tellement à ce coup des faux billets, bien qu'ils en aient imprimé des milliers et des milliers. Mais s'il l'avait vraiment cru, il aurait déstabilisé l'économie. D'ailleurs, il l'avait presque déstabilisé après la guerre, hein, parce que l'Angleterre a baissé, a dévalué sa monnaie parce qu'il y avait trop de billets en circulation. Mais il aurait vraiment jeté l'Angleterre à terre si l'opération avait continué au-delà. Alors voilà qu'était l'histoire du trésor, et je dois souligner en à côté que les Américains ont découvert dans une mine, lorsqu'ils ont pris possession des territoires, dans une mine de sel, tous les œuvres d'art qui avaient été pillées dans toute l'Europe. Ouais. Il y a un film américain qui a été fait là-dessus.
Oui, comment ça s'appelait, non?
Je me souviens pas du titre, mais je sais que c'était tous des soldats connus pour leur connaissance en art,
okay,
et qui étaient chargés de les découvrir. D'ailleurs, il y avait eu une autre mine où étaient cachées toutes ces œuvres d'art, où les Américains étaient arrivés en premier, mais les Russes voulaient arriver là. Dans le film, on le voit, là, les Américains ont réussi à remettre finalement tous ces tableaux volés aux Juifs, volés dans les églises, etc., etc. Voilà.
Moi, ça me fait penser à l'épisode des Simpsons, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Forcément, il y en a quelques-uns. Le trésor des poissons de l'enfer, donc ça se passait dans le temps de la guerre, le grand-père Simpson qui avait récupéré des tableaux, qui avait enfermé ça dans une malle, puis il avait coulé ça dans le fond de l'océan, puis il disait le dernier de la gang qui va être vivant va pouvoir hériter de ces tableaux-là. Finalement, c'est un jeune Allemand dans sa décapotable avec la musique disco des années 90 qui a « Oh, mettez ça dans mon char, il faut que j'aille danser à soir », mais il s'en foutait. Puis tu sais, le vieux, il voulait récupérer. Il avait donné son arme là-dedans, il voulait le récupérer, puis l'autre part avec ça, avec sa musique, avec son beat. C'est très drôle. Bref, vous pourrez retourner voir cet épisode.
Mais toi aussi, t'as des histoires de lacs.
Oui.
Il y a eu des lacs au cinéma, des lacs qui étaient
Il y a eu des flops aussi.
moins épouvantables que Toplitz.
Ouais, exact. Bon, ben, écoute, moi, tu me parlais du le lac Toplitz, très nazi, etc. Ben, moi, je dis, j'allais fouiller dans ma cinémathèque, les films de genre un peu. Et là, je t'ai sorti deux films. Un qui date des années 80 et l'autre des années 2000. Un français et l'autre québécois. Donc, je vais te parler du premier film.
Là, tu me mets l'eau à la bouche.
Qui s'intitule Le lac des morts vivants. On remonte en 1981, on écoute le petit résumé que je vous ai préparé.
Cinémaniaque, la chronique cinéma des passionnés de l'horreur, de l'épouvante, du fantastique et de la science-fiction. Cinémaniaque. Le lac des morts vivants.
Une jeune femme disparaît alors qu'elle se baigne au bord d'un lac, dans lequel des soldats nazis furent jetés au cours de la Seconde Guerre mondiale, après avoir été tués par des partisans.
Ah, le lac! Le lac! Ah, le lac! Ah.
10 ans plus tard, ce sont de jeunes basketteuses qui périssent dans d'atroces conditions.
Il paraît qu'une équipe de basket féminine aurait disparu au complet dans le lac. Bouffé par des revenants.
Le lac est hanté. Hanté par les nazis revenus d'entre les morts pour se venger de leur sort.
Il paraît que c'est un navet, Lucas.
Ce film prend la réputation d'être le plus mauvais film français de tous les temps.
C'est une insulte pour le légume.
Ça pose... donc, il est vrai que sa production a été remplie d'incidents qui renvoient à des conditions de tournage exécrables. Donc, c'est Eurociné qui a réalisé ça à l'époque.
Il doit peut-être en faillite depuis.
Alors, pour moi, ils ont disparu. Eux, ils étaient spécialisés dans les films de genre, mais de série B, W, Z. Là. Et donc, le film a commencé sous le travail d'un réalisateur, mais s'est terminé dans les mains d'un autre. Parce qu'il a décidé après 2 jours que moi, je suis avec mon candidat, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est Jean Rollin qui interrompt ses vacances et vient colmater les brèches du tournage. Il avouera par la suite qu'il ne savait même pas ce qu'il tournait vu que le scénariste réécrivait le scénario au jour le jour. Sur place, le tournage vire au cauchemar.
Est-ce que tu l'as vu, celui-là?
J'ai vu des extraits. Il y a de la fille tout nue là-dedans. Fait que faites attention. Là. Les plus vieux pourraient... Ouais, c'est ça. Mais sur place, le tournage vire au cauchemar. Le fond de teint vert tient lieu de maquillage pour les zombies nazis qui sortent de l'eau. C'est pas waterproof. Là. Ça coule au fur et à mesure. Ça dégouline dans le cou des victimes. Les effets sanglants se résument à un seau rempli d'eau colorée. La caméra se détraque et tourne pas à la bonne vitesse qui oblige de faire jouer les acteurs plus lentement que prévu pour compenser parce que la caméra tourne trop vite. Fait qu'il faut qu'il reste juste au ralenti. Les scènes sous-marines sont tournées après coup dans une piscine garnie de nénuphars, puis on voit les bords de la piscine dans certains plans. Des problèmes de raccord avec celles filmées en extérieur, les victimes écoutent barbotte dans 5 cm d'eau, puis après ça on se ramasse sous 2 mètres d'eau. Donc, puis des fois tu vois un zombie nazi qui remonte parce qu'il manque d'air. Il remonte à la surface. Donc, l'action se passe dans les années 50, mais on reconnaît immédiatement les années 80 par des pantalons pattes d'éléphant, une vieille Renault 1979. Écoute, ça marche pas pantoute.
Donc, il y a des extraits sur YouTube, j'imagine?
Oui, vous pouvez aller voir la bande-annonce. Puis je me demande si le film au complet, en mauvaise qualité, mais n'est pas disponible sur YouTube. Là. Allez voir
faites
ça. Faites une recherche.
Une petite pause. Avant ton prochain lac.
Oui.
T'aimes ça regarder des films d'horreur avec tes amis? Cet été, joins-toi au Vidéoclub Ça fout la chienne. Au menu, cinéma en plein air, popcorn, tirage, discussion autour du film présenté, produits dérivés de ton magazine préféré et une ambiance vraiment cool. Manque pas ça, c'est au Patro de Lévis, si t'en as le courage. Une présentation de Cabro Productions, du magazine jeunesse Ça fout la chienne et du Patro Vacances. Et toi, est-ce que tu feras partie du club?
Est-ce que c'est aussi pourri que le précédent?
Non, mais on veut quand même donner une chance parce que c'est un des rares...
Film québécois?
Oui, et réalisateur qui veut vraiment apporter un cinéma de genre au Québec, ce qui est beaucoup plus rare. On est beaucoup habitué à des cinémas...
Plus sérieux, plus songé.
Des films de famille autour de la cuisine. Ouais.
Un petit café,
les ploufs, puis bon, on se ramasse avec finalement un film. Et c'est une série télé que tu vois à la télévision chaque semaine, un téléroman, mais gros budget. Donc, là, ici, je vous parle du Scaphandrier. Le Scaphandrier, on est encore dans l'eau, qui date de 2015 et ça se passe dans le bas du fleuve. Donc, on écoute le résumé puis je vous reviens tout de suite après.
2015, le Scaphandrier. Un navire est retrouvé à la dérive avec son équipage massacré sur les côtes de la Gaspésie. C'est la consternation. Dans la foulée, une journaliste ambitieuse, aidée d'un jeune muséologue archiviste plutôt timide et sédentaire, découvre qu'un collectionneur d'objets maritimes au dessin douteux est peut-être en lien avec cette terrible histoire. S'amorce alors une course contre la montre pour découvrir qui est ce mystérieux scaphandrier qui dessine tout sur son passage pour arriver à ses fins et récupérer de précieux documents pillés sur l'épave du Princess of the North, là où il a trouvé la mort. 100 ans plus tôt.
Ah, il aurait pu servir au Lotto Plays, lui.
Oui, effectivement. Donc, largement boudé par la critique, bon, à raison, hélas, selon plusieurs critiques, le film eut toutes les peines du monde à attirer un public conséquent, malgré le grand nombre de fans du genre. Une présentation au Festival Fantasia aurait peut-être permis au film de lancer son bouche-à-oreille dans de meilleures conditions. Là-dedans, on retrouvait... Il y a Béatrice Picard, il y a Raymond Bouchard. Tu sais, quand même, il y avait des bons éléments.
Un gars
des
losons.
Oui, mais pour avoir entendu certains extraits de la bande-annonce, j'ai pas vu le film en entier, j'ai vu des extraits. Je trouve que des fois, les dialogues sonnent un peu faux. On pourrait voir les lignes du script pendant que le personnage parle. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu un manque du côté...
Suis venu plonger.
Oui. Ah, mais vous voilà ici. On parle jamais comme ça, on est dans le bas du fleuve, écoute. Donc, mais malgré tout, sur la scène, faut pas y enlever tout. Sur la scène internationale, le film a été retenu dans plusieurs festivals de genre, surtout en Europe. Et le Scaphandrier a fait le sujet d'un reportage à la Fabrique culturelle, qui est toujours disponible si vous tapez le Scaphandrier Fabrique culturelle sur Google. Vous pourrez voir un beau reportage de 4 minutes 30. Alors, d'ailleurs, la Fabrique culturelle qui avait fait un super reportage sur le magazine Ça fout la chienne. Et Pierre, t'étais justement avec nous.
J'ai fait un tournage.
Un tournage sur le tournage. Et avec des belles photos de plateau. On vous invite aussi à aller à taper ça du même coup.
Et je tiens à vous rappeler que ce que nous disons sur ce balado, sur Balado Québec...
est faux! Non, non, c'est pas vrai.
est illustré sur notre page Facebook et sur YouTube.
Exactement.
Quand j'ai dit illustré, c'est que par exemple, lorsque je vous parlais du lac Stoplice tout à l'heure...
vous aurez des images.
Des images qui ont été filmées à l'époque, justement, du fameux journaliste là, avec sa gang de plongeurs.
Exactement. Donc, ce dont on vous parle, vous aurez un visuel qui appuie nos dires.
C'est ça.
Donc, sur la page officielle, ça fout la chaîne Facebook et YouTube. Et évidemment, en balado, donc c'est la base du balado sur Balado Québec. On fait une pause.
Tu veux t'abonner au magazine qui fout la chienne? C'est facile. T'as juste à nous écrire sur notre page Facebook ou commander directement sur la boutique en ligne du site internet de notre éditeur au cabroproduction.ca.
Voilà, tu nous as préparé un conte. La dernière fois, tu nous l'avais fait comme
en direct.
Live, là, en direct.
On perdait un peu l'ambiance.
C'était tellement épeur. Hein?
Fait que là, je l'ai...
Non, mon rod, c'est une générale.
Hein, c'est ça, ce pilote. Donc, là, c'est l'heure de se foutre la chienne. Donc, on se lance autour du feu de camp, et on se raconte une histoire qui fout la chienne. Et là, on va se retrouver dans le coin de Shawinigan, au lac des Piles.
Oui, là, c'est vraiment bien monté, je vous le dis. Écoutez ça.
Il est l'heure. L'heure de se faire peur. Avec une histoire qui fout la chienne. Le noyé du lac des Piles. Des résidents du lac des Piles, dans la région de Shawinigan, raconte qu'à l'été 1946, un dénommé Pierre Auger serait tombé à l'eau au cours d'une petite excursion en chaloupe et qu'un malaise l'aurait empêché de remonter dans son embarcation. Ses appels à l'aide auraient certes alerté quelques riverains qui vinrent à son secours. Mais un épais brouillard masquait le lac. Personne ne parvint à le localiser et le malheureux se noya. Après plusieurs plongées infructueuses, des recherches à la dynamite furent entreprises dans l'espoir de faire remonter le corps. Pourtant, jamais son cadavre ne fut repêché. Dans les semaines qui suivirent le drame, un phénomène étrange se manifesta. Bon nombre de plaisanciers affirmèrent en effet avoir aperçu sous la surface de l'eau le corps d'un homme qui, bras tendus, semblait les supplier. Comme ce grand lac sans fond avait déjà la réputation de ne pas rendre ses noyés, on crut à un miracle. Et les recherches reprirent de plus belle, sans toutefois donner de meilleurs résultats. Puis, la rumeur enfla. On murmura que c'était l'âme de Pierre Auger qui, certains jours de grisaille, remontait à la surface en implorant sa délivrance. L'histoire se perpétua au fil des ans. Bien des années plus tard, un plongeur découvrit sur le plateau d'une falaise sous-marine profonde de plus de 60 mètres un tibia, une paire de lunettes, un étui renfermant un chapelet, un fourreau de poignard et une paire de chaussures. La sœur de Pierre Auger, aujourd'hui grand-mère, identifia le chapelet comme étant celui de son défunt frère. Mais le mystère ne s'arrêta pas là. En effet, on remarqua que l'os retrouvé avait été rongé et que la semelle d'un des souliers portait de nombreuses marques de dents. On en arriva donc à la conclusion que le corps du noyé avait été dévoré par une créature habitant de toute évidence dans les profondeurs du lac. Malgré l'inhumation de ses restes en terre sacrée, le noyé du lac des Piles continue de multiplier les apparitions sans que personne ne comprenne ce mystère.
Ih, ça fait peur, hein?
Oui!
Moi, non, pas sûr, je vais aller voir ce lac-là. Moi, encore une fois, la thématique du lac, c'était notre thématique du jour. Eh bien, Pierre, on aurait déjà terminé notre balado?
Oui!
C'est fou! Avant de terminer, je veux juste vous inviter... par rapport aux actualités, mais il y a le vidéoclub Ça fout la chienne, je voulais vous inviter. Ça se passera le 11 juillet prochain au Patro de Lévis. C'est en partenariat avec le Patro Vacances. Donc, c'est un cinéma en plein air à l'intérieur des murs du Patro de Lévis.
En fin de journée, ça?
En fin de journée, environ vers 19h.
Ouais.
Et sur place, produits dérivés du magazine, des tirages fantômes. Mais là, c'est couverture au sol, popcorn, animation. On va parler du film présenté. On va vous présenter le film, Silver Bullet, Peur Bleue. C'est une adaptation d'un roman de Stephen King, un film de loup-garou de 1985. Alors, on suit les aventures d'un jeune adolescent qui croit voir un loup-garou. J'en avais parlé dans une de mes chroniques cinéma antérieure dans le magazine. Alors, on vous invite en grand nombre. Venez, parents avec enfants, c'est ouvert à tous. Et donc, c'est, je le rappelle, le 11 juillet prochain.
Alors, pour ceux, évidemment, qui habitent dans la région de Québec, là, ceux qui nous écoutent très loin, ben, peuvent prendre le train, puis l'avion.
Oui, ou sinon, vous pourrez voir
traverser l'Atlantique.
Des photos promotionnelles qui ont suivi l'événement. Et je rappelle que les abonnés du magazine, sous la présentation de leur carte de membre du Vidéoclub, parce que là, tu fais partie du club,
ouais,
qui l'auront reçu avec leur numéro du mois de juillet, auront l'entrée gratuite, et tous les jeunes qui font partie du Patro Vacances auront l'entrée gratuite aussi.
Si tu dis l'entrée gratuite, c'est qu'il y a un coût de
5 $ à l'entrée pour le grand public.
Et moi, dans le prochain balado du mois d'août, je vais m'intéresser aux maisons hantées.
Oh lolo!
Mais non, pas nécessairement des maisons hantées un peu partout à travers le monde,
ouais,
dans toute la région de Québec.
Génial!
Portneuf, Charlebourg, Beauport, etc.
Excellent.
Alors, c'est une spécialiste de la matière qui a enquêté pendant plusieurs années, qui a été témoin et qui a observé des choses dans certaines de ces maisons. Et elle démontre aussi que c'est pas nécessaire d'avoir une vieille maison, là, toute décrépite pour qu'il y ait des fantômes. Il y a des roulottes là-dedans,
des appartements,
ouais, etc. Alors, vous allez voir, ça, c'est passionnant. Et ce qu'elle nous apprend aussi en poussant sa recherche un peu plus loin, qu'elle fait une étude sur les sons, sur...
L'origine des sons qu'on peut entendre, qu'on peut imaginer, qu'on peut voir.
Etc. Ah, hey. Alors ça va être pour le mois d'août.
Alors, super, ben sur ça, on vous passe. Sur ça, on vous souhaite... On vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partiront, pour d'autres qui reviennent, et pour ceux que ce sera plus tard, ben, profitez quand même des beaux jours qu'on a. Faut en profiter parce que j'ai l'impression qu'on paye une journée pour le lendemain. Enfin bref, continuez à vous foutre la chienne, et sur ça, on vous dit au revoir!